Très très plaisir. Il n'y a pas de petites économies. Et ça tient longtemps.
Le mimosa, non.
C'est assez éphémère. Le
jusqu'à la Saint-Valentin 2025.
Non.
Je respecte, même si je le congélateur.
En boutique.
Ouais. Bon, allez, ok, c'est pas grave. Merci à vous tous. On se retrouve pour la suite sur RTL et on vous donne des nouvelles de tous les dossiers. N'hésitez pas à nous contacter. Ça peut vous arriver à @m6.fr. Vous écoutez RTL. Il est maintenant midi.
RTL Midi, le 12h, Céline Landreau et Éric Brunet.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce RTL Midi. C'est 2h30 d'information et d'opinion, ça c'est pas nouveau, c'est tous les jours, mesdames, messieurs, et ça dure jusqu'à 14h30. Et c'est cette régularité de métronome que vous aimez. L'information, c'est jusqu'à 13h et c'est avec vous, la métronome de l'info, Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Éric, bonjour à tous. Le conflit à Gaza qui s'invite dans les cortèges du 1er mai, la situation internationale prend le pas sur le social, avec à la clé quelques tensions, Raphaël Glucksmann empêché de défiler à Saint-Étienne. Et tout ça alors qu'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est en Israël pour tenter de convaincre Benjamin Netanyahou d'accepter une trêve et de renoncer à une offensive militaire à Rafah. Tu casses, tu répares. Après les mots de Gabriel Attal, la méthode. Le gouvernement a détaillé ses travaux d'intérêt éducatif destinés aux moins de 16 ans. On vous dit tout dans 10 minutes. Dans l'actualité également, les Français devront désormais mettre la main à la poche pour se former. Il faudra débourser 100 euros pour profiter du CPF, le compte personnel de formation. On y revient dans 20 minutes. Juste avant, RTL Midi, un jour chez vous. Et direction aujourd'hui, la Mongie, dans les Hautes-Pyrénées, où l'on se prépare à accueillir l'un des hommes les plus puissants de la planète, le président chinois Xi Jinping. Le Paris Saint-Germain qui rêve d'une finale en Ligue des Champions, on parle football évidemment, mais avant ça, il faudra franchir le mur jaune de Dortmund, demi-finale aller ce soir en Allemagne. Et puis on a appris ce matin le décès de l'écrivain américain Paul Auster, auteur notamment de la trilogie new-yorkaise. C'était l'un des romanciers américains les plus francophiles.
Je suis seul dans la pièce où j'écris, mais je suis avec le monde là. Et chaque acte d'écrire, c'est une adresse aux autres, des anonymes, des gens qu'on ne voit pas. On n'écrit pas pour soi.
Paul Auster avait 77 ans et Bernard Lehu, qui l'a rencontré chez lui, viendra lui rendre hommage juste avant 13h dans LVT Midi. Et puis à partir de 13h, évidemment, un seul numéro. Le 3210, Eric, pour discuter avec vous dans les auditeurs ont la parole.
Oui, très ému ce matin dans le journal de 8h d'RTL par ces propriétaires dont le logement est squatté à Cannes. Ils font une grève de la faim. Voilà, alors la question c'est, faut-il encore renforcer la protection des propriétaires pour permettre de récupérer leurs biens? C'est pas facile, hein. Même si la loi a changé, c'est pas facile. Et puis, nous rêverons un peu car il y a eu un vainqueur de l'Euromillion, 166 millions. Il écoute peut-être RTL, il peut nous appeler. Plus généralement, dans les embouteillages.
Ah oui, s'il écoute vraiment, qu'il nous appelle.
Oui.
Qu'il nous raconte comment il s'est réveillé ce matin en apprenant ça.
Non, mais moi, je rêve de. Bon, c'est un rêve, c'est un fantasme même. Mais
vous jouez ou pas?
Non, je ne joue pas, mais souvent dans les embouteillages, je me dis, tiens, si je gagnais 3 millions d'euros, qu'est-ce que je ferais? On rêve tous à ça, eh bien, rêvons ensemble. Que feriez-vous, mesdames, messieurs, si vous gagniez, vous aussi, 166 millions d'euros, hein? Réfléchissez-y, et on va rêver ensemble, 32-10.
À ce prix-là, Peggy Broche, bonjour. Avec 166 millions, est-ce qu'on peut acheter le soleil ou toujours pas?
Eh non, malheureusement, je suis désolée.
Il faut prendre un billet d'avion, quoi.
C'est exactement ça, il faut prendre un billet d'avion si vous voulez du soleil, ou alors éventuellement des éclaircies sur le nord. Mais partout ailleurs, on sera bien arrosé sur le reste du pays avec des pluies soutenues et des orages.
Merci Peggy. Les détails à la fin du journal.
RTL Midi.
Pour les salaires, pour la paix au Proche-Orient, pour une Europe qui protège davantage. Si les syndicats appellent, comme chaque année, à manifester en ce 1er mai, les mots d'ordre sont assez variés dans les cortèges. Illustration à Lyon ce matin où la situation internationale semble avoir pris le pas sur les questions sociales, Raphaël Mantard.
Oui, dès le début de ce cortège, dans une ambiance assez tendue, il faut le dire, ce sont les drapeaux palestiniens qui prennent le dessus sur les bannières syndicales. Dans les slogans scandés également la situation au Proche-Orient et partout.
Avançons vers la fraternité, nous ne voulons plus de guerre !
Dans la foule, rencontre avec deux femmes d'une soixantaine d'années, Corinne et Christine, toutes deux habituées au 1er mai, plus sociaux et aujourd'hui mobilisées pour la situation internationale.
C'est surtout important, si on va un peu derrière, voir qu'il y a un gros cortège Palestine et c'est important.
Donc oui, aujourd'hui je suis touchée par la situation à Gaza, donc il est grand temps que ça s'arrête, parce que bientôt on aura un peuple qui aura disparu. Le 1er mai, il sert à toutes les luttes, aux luttes syndicales et aux luttes de solidarité entre les humains sur Terre.
En arrière-fond, les syndicats maintiennent ça et là quelques revendications sociales, notamment sur l'assurance chômage, dont tous rejettent les futurs projets de réforme.
Raphaël Vantard à Lyon pour RTL. Raphaël Glucksmann, lui, n'a pas pu rejoindre le cortège à Saint-Étienne. La tête de liste du PS et place publique aux européennes, empêchée après des jets de peinture et des invectives de quelques dizaines de militants. Raphaël Glucksmann qui dénonce l'attitude, je cite, d'une cinquantaine d'énergumènes dont certains appartenant selon lui à la France Insoumise. On y revient dans le journal de 12h30 et puis noter qu'à Paris, le cortège s'élancera à 14h de la place de la République, direction Nation.
Le 1er mai, c'est une date importante pour le Rassemblement National et cette année ne fait pas exception, Céline Landreau.
Non, en pleine campagne des européennes et alors qu'il caracole en tête des sondages, Jordan Bardella tiendra un grand meeting de campagne en début d'après-midi à Perpignan et présentera ses 34 premiers colistiers. Dans le même temps, Marion Maréchal, elle, est à Don Rémy la Pucelle pour un hommage à Jeanne d'Arc. Et puis le 1er mai, c'est aussi son lot de changements, notamment concernant le compte personnel de formation, puisque désormais les actifs seront mis à contribution et devront débourser 100 euros pour se former. On y revient à 12h20.
Et puis obtenir une trêve, convaincre Benjamin Netanyahou de renoncer à une offensive sur Rafah, c'est la délicate mission d'Anthony Blinken.
Le chef de la diplomatie américaine rencontre aujourd'hui le premier ministre de l'État hébreu. Bonjour Fleur Citruc.
Bonjour.
Mission délicate, hein, Fleur, car Benjamin Netanyahou n'a pas l'intention de céder.
Oui, le premier ministre israélien a encore déclaré hier que l'offensive à Rafah aurait lieu avec ou sans accord de trêve. Benjamin Netanyahou craint de perdre le soutien des ministres d'extrême droite de sa coalition s'il renonce à attaquer le dernier bastion du Hamas à Gaza. Sur le papier, Israël a accepté le principe d'une trêve de 40 jours et le retrait de ses troupes vers l'Est en échange de la libération de 33 otages, une proposition qualifiée d'extraordinairement généreuse par le secrétaire d'État américain. La réponse du Hamas était attendue ce soir, mais pourrait n'intervenir que d'ici la fin de la semaine, selon un média qatari. Anthony Blinken a pris le temps de parler aux familles des otages qui manifestaient ce matin devant son hôtel à Tel Aviv. Il leur a affirmé qu'il continuerait d'agir sans relâche jusqu'à que leurs proches soient libérés. Autre sujet brûlant entre Benjamin Netanyahou et le chef de la diplomatie américaine, la question de l'aide humanitaire à Gaza. Les États-Unis réclament que l'État hébreu augmente de manière significative le nombre de camions qui entrent chaque jour dans l'enclave.
Fleur Citruc, correspondante de RTL en Israël.
RTL Midi.
Football et grand soir. Ce soir, le PSG est face au mur jaune, le célèbre mur jaune, en demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Ce sera donc à Dortmund et l'attente est grande tant les planètes semblent alignées comme jamais pour le PSG. Le coup d'envoi à 21h, à suivre évidemment sur RTL pour cette demi-finale aller. Notez qu'hier, le Bayern Munich a concédé le nul sur son terrain face au Real Madrid, 2-2. Et puis le sport, c'est aussi ce triste anniversaire aujourd'hui. C'était il y a 30 ans exactement.
La mort d'Ayrton Senna à 34 ans sur le circuit d'Imola. Il est mort, il s'est éteint il y a quelques instants à Bologne. La nouvelle est officielle.
Le Brésilien Ayrton Senna, 34 ans, décédait en effet à l'hôpital de Bologne quelques heures après son terrible accident lors du Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit d'Imola. Et trois décennies plus tard, ceux qui étaient présents n'ont rien oublié, Frédéric Veil.
De l'avis de tous ceux qui étaient sur place, cette journée du 1er mai 1994 fut un choc. Jean-Louis Moncet et Pierre Van Vliet commentaient la course ce jour-là pour TF1.
Je crois que je vais me rappeler tout au long de ma vie de la peine immense, le chagrin immense. Tout le monde s'est mis à pleurer.
C'est la pire journée, c'est mon pire souvenir professionnel. 30 ans après, j'en tremble encore.
Journaliste, pilote, tout le monde a été marqué par la mort du champion. Paul Belmondo et Éric Comas participaient à ce Grand Prix.
Oui, ça nous a tous bouleversés. Et à cette époque-là, on pensait que nos voitures étaient très sûres. On ne pensait pas qu'un pilote pouvait se tuer.
Même des années après, ça reste dur d'en parler. Ça reste dur de se souvenir de ce jour-là, bien sûr.
Ayrton, c'était mon idole. Comme vous le savez, il m'a sauvé la vie dans un accident à Spa en 92. Et le destin a fait que je sois là pour son dernier souffle. Et ça a été très, très dur à vivre.
Aujourd'hui, et comme tous les ans, depuis 30 ans, des milliers de fans iront se recueillir à Imola devant la statue d'Ayrton Senna située au virage de Tamburello.
Frédéric Veil pour RTL. Frédéric, qui vous parle du mythe Ayrton Senna en longueur dans le podcast RTL Tout Savoir Sûr, à retrouver sur notre site RTL.fr et sur l'appli.
Très bon bouquin qui vient de sortir, une biographie du journaliste Lionel Froissart, qui a suivi la Formule 1 pour Libération pendant des années, d'Ayrton Senna, qui vient tout juste de sortir.
Le conseil de lecture vous était proposé par Eric.
Eh ben oui, j'ai le droit de temps
bien
en temps.
Bien sûr, bah
vous voulez que je fasse
droits.
Un peu de météo là.
Allez-y,
vous,
allez-y,
vous
en prie.
Eh bien, il va faire gris un peu partout, sauf dans le quart nord-est de la France.
Ah mais c'est pas mal, Philippe.
Bah oui,
dites-moi.
Vous voyez.
Vous avez bien retenu.
Hein. Un jour, je vous piquerai votre boulot.
Il y a pas de souci, ok. Je vous piquerai pas le vôtre par contre.
Ouais, vous pouvez. Hein,
alors gris, mais en plus bien pluvieux sur toute la moitié sud du pays et sur l'ouest avec des averses orageuses. Alors cet après-midi, on a la perturbation qui se décale très légèrement, qui va donner un temps plus calme sur la façade atlantique. On aura une alternance de nuages et d'éclaircies, quelques averses dans la partie ouest, mais partout ailleurs, entre le sud-est, les plaines du sud-ouest, en remontant vers le massif central et la Normandie, ça restera bien pluvieux avec localement des pluies soutenues et des orages. On a 14 départements en vigilance orange aux orages, un phénomène qui va commencer en fin de journée. Donc des orages bien marqués, bien forts entre l'ouest de la Bourgogne, l'Île-de-France et les Hauts-de-France entre la fin de journée et la soirée. On pourrait avoir de la grêle localement, de fortes rafales de vent, d'importants cumuls de pluie, des phénomènes tourbillonnaires. Et puis on a beaucoup de neige également en altitude hein, sur les Alpes frontalières et les Pyrénées. Et c'est aussi instable avec des averses orageuses sur la Corse et comme l'a dit Eric, à l'écart, le nord-est, l'Alsace, Lorraine, les Ardennes, le Nord-Pas-de-Calais avec un temps sec sous un ciel variable. Et les températures, alors on a un fort contraste entre le sud-ouest et le nord-est. 10 degrés seulement à Tarbes, on est facilement 8 à 10 degrés de moins par rapport à la veille. 11 à Toulouse, 12 à Bordeaux, 13 à La Rochelle, 14 à Brest, 16 à Montpellier, 17 à Marseille, 19 à Perpignan, 21 degrés à Paris, 22 à Lille, 25 à Nancy et 26 à Strasbourg.
En comme hier.
Comme hier, exactement.
26 à Strasbourg.
Strasbourg et Metz pour la maximale.
La météo, vous avez raison.
Un jour sur l'autre.
Je m'en souviens. 26 Strasbourg hier et aujourd'hui.
Merci Peggy. On marque une pause dans un instant. Le fameux « tu casses, tu répares » de Gabriel Attal, mis en application. Le gouvernement vient de détailler ses travaux d'intérêt éducatif promis aux plus jeunes.
RTL. Pour tout comprendre de l'actualité. Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Dortmund, Paris SG, ce soir à 21h sur Canal+ et Canal+ Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Céline Landreau, Éric Brunet, RTL Midi.
Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Vous vous souvenez, mesdames, messieurs, on en avait même parlé de cette sortie de Gabriel Attal dans Les Auditeurs ont la parole. C'était fin janvier, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Gabriel Attal promettait des sanctions adaptées pour les moins de 16 ans.
Oui, des travaux d'intérêt éducatif pour les plus jeunes qui ne respectent pas la loi. Pour en parler avec nous, Florence Roy, avocate pénaliste au barreau de Paris, spécialisée dans le droit de la famille et le droit des mineurs. Bonjour.
Bonjour.
Roisse, pardon, excusez-moi, j'ai écorché votre nom, promis, on ne recommencera pas. Et Plana Radenovic, journaliste au service police-justice d'RTL. Bonjour Plana.
Bonjour.
Plana, un petit éclairage d'abord avec vous. Qu'est-ce qu'annonce exactement le gouvernement sur ces travaux d'intérêt éducatif?
Alors, dans la circulaire envoyée à tous les procureurs de France, un document de 4 pages que nous avons pu consulter, il s'agit de donner une première réponse ferme de la justice à des adolescents de 13 à 16 ans qui commettent leur premier délit. La philosophie de ce texte, c'est d'éviter l'inscription réduction durable dans la délinquance. Les 13-16 ans représentent, selon la chancellerie, 40% des mises en cause dans les affaires transmises au parquet en 2022 et ils sont surreprésentés en ce qui concerne les dégradations, deux fois plus que les majeurs. Donc, trois volets à cette mesure. D'abord, une activité réparatrice en lien avec l'infraction commise, 20 heures au maximum pour entretenir le patrimoine de la commune, par exemple, ou les espaces verts. Attention, il ne s'agit pas de travaux d'intérêt général parce que c'est interdit de travailler en dessous de 16 ans, mais c'est bien une mesure d'intérêt éducatif effectuée hors temps scolaire. Le deuxième volet, c'est 4 heures au minimum de réflexion obligatoire sur le vivre ensemble et les valeurs de la République. Et enfin, troisième volet, un soutien pédagogique en lien avec le collège ou le lycée. Et à chaque étape de ce dispositif, les parents sont associés. Cette mesure doit durer 6 mois au maximum et surtout, elle doit être mise en œuvre très rapidement dans les 3 mois qui suivent l'infraction.
Mais Plana, à chaque fois qu'on a un nouveau ministre ou un nouveau Premier ministre, il vient avec sa batterie de solutions. Mais franchement, on se dit tout ça, ça existait un peu déjà avant, non ?
Alors oui, vous avez raison, c'est pour ça que ces mesures sont déclinées dans une circulaire et qu'elles ne font pas l'objet d'une nouvelle loi. Une circulaire, pour rappel, c'est des instructions données au procureur par le ministre de la Justice, donc Éric Dupond-Moretti, car les procureurs sont chargés d'appliquer la politique pénale du gouvernement, chacun dans leur ressort. Donc oui, ces mesures s'inscrivent dans des dispositifs existants, le stage de citoyenneté et le stage de formation civique. Mais ce qui est nouveau, c'est de mêler les trois volets que j'ai décrits tout à l'heure et aussi le lien est renforcé avec les parents et l'éducation nationale. Et comme une circulaire est d'application immédiate, ces mesures sont mises en œuvre dès aujourd'hui dans tous les parquets de France.
Florence Roy, on rappelle que vous êtes avocate pénaliste spécialisée dans le droit de la famille et des mineurs. Tout ça, Plana le disait, ça ressemble beaucoup donc à ce qui existait déjà. Qu'est-ce que l'on peut en attendre vraiment ?
Écoutez, moi quand j'entends ce que vous me dites, c'est des choses qui existent et qui sont déjà en application. Alors, est-ce que le ministre veut renforcer, si vous voulez, et cumuler ces trois volets ? C'est la question que je me pose. Mais l'aspect activité réparatoire, là, c'est-à-dire délégué du procureur qui prononce par exemple un rappel à la loi, qui prononce une mesure alternative aux poursuites, il y a même ce qu'on appelle le travail non rémunéré, qui est possible. Il y a même des compositions pénales. Donc, tout ce qui est activité, peine alternative aux poursuites, ça existe pour les 13 à 16 ans. Premièrement, alors après, les heures de réflexion sur le vivre ensemble, eh bien, vous savez, quand il y a, par exemple, une mesure de réparation pénale qui est ordonnée par le délégué du procureur sur instruction du procureur de la République, cette réparation pénale, elle est confiée à une unité éducative qui va conduire le jeune, par exemple, à faire une sorte de stage, à visiter des lieux qui ont une vertu, qui auraient une vertu ou qui auront une vertu pédagogique, à la fois aussi effectivement d'instruction civique, de compréhension du vivre ensemble. Et puis le troisième, c'est associer les parents. Alors, si vous voulez, dans chaque chapitre, chaque volet que vous avez décrit, ça existe, parce que les parents ont une responsabilité civile en leur qualité de représentants légaux. Donc, si leur enfant commet une infraction, eh bien, ils sont appelés à la réparer sur le plan civil, c'est-à-dire sur le plan notamment des dommages-intérêts.
Oui, financièrement
déjà. Concernant l'audience pénale, exactement. Concernant l'audience pénale, ils sont présents, en tout cas ils sont conviés et ils sont souvent là. Il y a des éducateurs qui sont désignés. Donc si vous voulez, toutes ces mesures existent. Je vois pas la nouveauté. Je pense que il faut beaucoup travailler, je vais vous dire, par expérience, sur d'autres mesures, donc sur l'amont, l'aspect éducatif. Il y a beaucoup de choses à faire en termes d'école, d'activités extrascolaires, d'activités loisirs, des maisons de la culture. Vous savez, quand des jeunes sont violents, ça veut dire qu'il y a on n'entend pas leur désir. La violence est l'expression d'une frustration. Il faut comprendre ça. En France, nous n'avons pas d'établissement scolaire qui mêle, par exemple, les activités classiques et les activités artistiques. Non, mais vous vous rendez compte ? Si un enfant aime l'art, aujourd'hui, il n'y a pas d'établissement. Il y a deux classes charmes qui se battent en duel. Vous voyez ?
Je pense que ça heurtera peut-être certains de nos auditeurs qui vont vous dire que la peinture, d'accord, mais qu'il faut peut-être sanctionner également.
Parce que Florence Roy, c'est Éric Brunet, je rappelle que vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Bonjour, maître. Quand vous nous dites finalement ce que met en œuvre ces travaux d'intérêt éducatif, le Premier ministre, ça existe un peu déjà, il y a deux solutions. Soit on a un Premier ministre qui fait de la com, ça serait pas le premier, très bien, il veut montrer qu'il s'empare de ces sujets, les jeunes, désœuvrés, délinquants, etc. Soit c'est plus complexe que ça, il veut faire peut-être bouger avec une nouvelle circulaire son administration, la justice qui n'applique pas encore les sanctions qui sont prévues ou les dispositifs qui sont prévus, il veut sensibiliser les familles, c'est peut-être ça au fond le véritable but. On dit toujours ils font de la com.
Parce que ça existe.
Est-ce que c'est utilisé, pratiqué ?
Ouais. Ça existe, c'est appliqué tout le temps. Enfin, vous imaginez les procureurs, enfin la section des mineurs du parquet de Paris notamment, mais du parquet de la France entière, ça doit les faire sourire, les juges des enfants y compris, les services éducatifs également.
Donc vous avez répondu, ça veut dire que Gabriel Attal, sur ce sujet-là, fait de la com.
C'est pas, peut-être qu'il n'a pas connaissance, peut-être qu'il n'a pas les conseillers autour de lui qui lui disent vraiment ce qui se passe sur le terrain et ce sur quoi il faudrait remédier. C'est peut-être ça. Vous moquez, entre guillemets, quand je parle de peinture, mais c'est pas la peinture en soi. Ça veut dire que, si vous voulez, c'est l'éducatif. Alors, l'éducatif, ça passe par tout ce qui est, si vous voulez, la société qui contribue à l'éducatif, donc l'éducation nationale, mais il y a également, alors, la question des parents. Mais les parents, c'est pas juste la sanction. Il faut aussi se pencher sur les vrais problèmes. La question des mères seules, eh bien, il faut les aider. Ça, il le dit.
Parce qu'on se rappelle notamment que dans les jeunes qui avaient été interpellés au moment des émeutes qui avaient suivi la mère de Nali, il y avait une grosse proportion d'enfants issus de familles monoparentales. Merci beaucoup, Florence Roise. Je rappelle que vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris, spécialiste dans le droit de la famille et le droit des mineurs. Et merci, Planar Adenovic. On marque une pause dans un instant, direction la Mongie dans les Hautes-Pyrénées, puisqu'Emmanuel Macron s'apprête à faire découvrir à Xi Jinping, le président chinois, cet endroit, la Mongie, où il aime aller se ressourcer.
Complètement dingue. Complètement dingue. Le président chinois à la Mongie.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça va ?
Non, je suis accro.
Eh ben moi je suis accro aux accras. Et en ce moment, les accras de morue sont à 1,89€ les 200 grammes au lieu de 2,69€, moins 29%.
1,89€ les accras de morue.
Eh oui, et issu de la pêche durable.
Ça peut plus durer.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,45€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Chez Conforama, on pense à ceux qui auraient bien besoin d'une pause fraîcheur.
Avec moins 50€ sur le réfrigérateur combiné Hisense et son distributeur d'eau à 399,99€.
Et oui, pas de pause sur les bonnes affaires. Conforama, jusqu'au 3 juin, voir conditions sur Conforama.fr.
RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, un jour chez vous. Chaque jour, l'info est au plus près de vous. Et aujourd'hui, direction les Pyrénées.
Oui, car mardi prochain, le 7 mai, Emmanuel Macron fera découvrir au président chinois l'endroit où il aime se ressourcer. Bonjour Patrick Tégéreau.
Bonjour Céline, bonjour Eric, bonjour à tous.
Vous avez pu le constater, Patrick, les Chinois sont déjà arrivés dans la station de la Mongie, station où le président français a ses habitudes.
Oui, c'est ici qu'il a découvert le ski. Sa grand-mère, Manette, habitait près de Bagnères-de-Bigorre, en bas dans la vallée, et il y séjournait pour les vacances. Il y retourne encore régulièrement. Et pour cette visite d'État, Emmanuel Macron veut faire partager ses souvenirs de jeunesse avec son homologue chinois, afin de placer cette visite plutôt dans le domaine de l'intime et du sentiment. La station est fermée actuellement, donc les Chinois devraient les remarquer, mais on les voit à peine, on sait qu'ils sont là, on en aperçoit au balcon des hôtels ou dans les véhicules noirs qui se baladent aux alentours. J'ai rencontré un de leurs chauffeurs, il s'appelle Bo, il a fait ses études à Bordeaux, mais quand on lui demande ce que font ses clients...
J'ai aucune idée.
C'est important pour vous de participer à cette visite ?
Oui, bien sûr, c'est notre président, c'est la relation entre la France et la Chine, c'est l'anniversaire de 60 ans, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Oui, c'est comme ça.
La délégation chinoise est très nombreuse actuellement ?
D'après moi, pas beaucoup, mais il y en a.
C'est-à-dire une vingtaine de personnes ?
Dizaine, vingtaine, peut-être, oui.
Des Chinois présents, donc, Patrick, mais très discrets. On connaît le programme de la visite, déjà ?
Alors, vous savez, tant que l'Élysée ne l'annonce pas, ce programme, eh bien, il est top secret. Pierrick est restaurateur à la Mongie.
Complètement, et on n'a aucune information officielle. On n'a que des bruits de couloir. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera là, qu'il va a priori monter au pic. Une partie de certains hôtels ont été réservés. Ça, c'est du fermé définitif. Et après, tout ce qui tourne autour, c'est tous les on-dit qui peuvent tourner autour de ça.
Alors, on imagine que les Bigourdans, les habitants de cet endroit des Pyrénées, sont très impressionnés par la perspective de cette visite. Il faut quand même dire que la Mongie dans les Pyrénées, c'est pas Courchevel, c'est pas les super élégantes stations des Alpes.
Attention.
Non, mais attendez, moi je suis un fou des Pyrénées, je suis du Sud-Ouest, donc
c'est quand même la plus grande station des Pyrénées.
Ouais, c'est la plus grande
station des Pyrénées. Alors très bétonnée, c'est vrai, elle n'a pas un très très grand charme, il faut bien
attention,
le reconnaître.
Mais
le site du Tourmalet est très très beau. Le site du Tourmalet est très très beau, il faut quand même le dire. Ouais. Alors c'est certain, donc bien sûr. Ce sera un coup de pub extraordinaire pour les Hautes-Pyrénées. Alors Franck tient une grande brasserie à Bagnères-de-Bigorre et comme beaucoup d'abord au début, il n'y a pas cru.
On a cru que c'était une blague et puis au final c'est très bien pour la région. Quoi. Puis ça va nous faire de la publicité encore. Mais le pic du midi, je sais pas, j'ai du mal à m'imaginer moi, que ça puisse l'impressionner. Voilà. J'imagine qu'en Chine, ils ont des montagnes plus grandes que chez nous.
Bah, ils ont un morceau d'Himalaya important. Hein.
Ouais, donc s'ils veulent bluffer, va falloir les remontrer quand même.
Oui, c'est pas gagné. Le pic du Midi, majestueux, devrait être le clou du spectacle avec sa vue sur tout le sud-ouest d'Atlantique en Méditerranée au nord et sur toute la chaîne des pics pyrénéens au sud. Mais il pose aussi quelques soucis. D'abord, en matière de sécurité, téléphérique ou hélicoptère? Et surtout, météo. Le temps change vite à plus de 2800 mètres d'altitude. Et si le pic est plongé dans les nuages, eh bien, il n'y aura pas vraiment de quoi épater Xi Jinping.
Merci beaucoup, Patrick Tégéraud.
RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, mesdames, messieurs. L'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui, on s'arrête sur l'un des changements du 1er mai. Il concerne le CPF. Écoutez bien, le compte personnel de formation.
Oui, car désormais, les actifs qui voudront en profiter devront mettre la main à la poche. Bonjour Mathilde Piquet.
Bonjour.
Une contribution de 100 euros leur sera demandée.
Oui, un reste à charge mis en place dès demain, le 2 mai. Alors jusqu'à présent, vous deviez seulement compléter avec vos propres financements si vous n'aviez pas assez d'argent sur votre CPF, et bien maintenant, la contribution sera systématique parce que le gouvernement cherche à faire des économies un peu partout. Il doit encore trouver 10 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Le but, réduire le déficit public et il n'y a pas de petites économies. Avec ce reste à charge sur le CPF, c'est 200 millions d'euros de dépenses en moins pour l'État dès cette année. Cette nouvelle contribution au CPF sera réévaluée tous les ans. Son montant sera calculé en fonction de l'inflation.
Le compte personnel de formation et cette nouvelle règle, elle vaut pour tout le monde ?
Alors non, il y aura des dérogations. Vous n'aurez pas à payer ce reste à charge si vous êtes en reconversion ou en recherche d'emploi. Autre exception, là pour les salariés, vous pouvez tout simplement demander à votre employeur de prendre en charge cette participation de 100 euros. L'organisme de formation professionnelle dont vous dépendez pourra aussi choisir de régler le reste à charge à votre place.
Mais Mathilde, tous les actifs aujourd'hui ont un CPF ?
Oui, dès que vous entrez dans la vie active, même en tant qu'apprenti, et ça jusqu'à votre départ à la retraite, vous cumulez des droits à la formation sur votre CPF. Le dispositif s'applique quel que soit votre statut, salarié, fonctionnaire, demandeur d'emploi, travailleur indépendant et même profession libérale. Pas besoin non plus d'être majeur, les droits s'ouvrent dès 16 ans et même 15 ans pour les apprentis. Vos droits au CPF ne dépendent pas non plus du contrat de travail, ils sont bien attachés à la personne même si vous changez d'emploi.
Et je suis sûr qu'il y a des salariés qui nous écoutent, qui ignorent qu'ils ont un compte personnel de formation. Comment ça fonctionne ? On cotise pour cela ?
Alors, ce ne sont pas directement les salariés qui abondent le CPF. En fait, c'est principalement financé par les employeurs avec un prélèvement sur la masse salariale. C'est aussi complété par des ressources des organismes de formation professionnelle. Au bout du compte, chaque année, votre CPF est alimenté de 500 euros en moyenne. Ça peut aller jusqu'à 800 euros pour les actifs peu qualifiés. Il y a deux cas particuliers, les fonctionnaires avec des barèmes un peu différents. Et puis les demandeurs d'emploi, ils bénéficient bien du dispositif, mais leur compte n'est plus alimenté pendant leur période de chômage.
Les formations, Mathilde, on choisit celle que l'on veut ou il faut que ce soit validé par l'entreprise, par exemple ?
Alors, on choisit presque celle qu'on veut. Déjà, le catalogue est très large. Pêle-mêle, le permis de conduire, un bilan de compétences, des cours de langue étrangère. Vous pouvez aussi avoir accès à des formations pour vous reconvertir dans les ressources humaines ou l'entrepreneuriat. Il y a quand même quelques conditions. Il faut que la formation serve de près ou de loin à votre parcours professionnel et qu'elle soit dispensée par un établissement agréé. Les critères sont aussi en train d'être resserrés par le gouvernement. Dans son viseur, le permis moto, qui est éligible au CPF depuis le 1er janvier, face à l'afflux des demandes, son financement grâce au CPF sera bientôt interdit si vous avez déjà le permis voiture. Concernant l'accord de l'employeur, il n'est pas obligatoire. Si votre formation se déroule en dehors de votre temps de travail, vous n'avez besoin d'aucune autorisation de sa part. En revanche, si vous vous formez sur votre temps de travail, là, il faudra avoir une une autorisation d'absence de votre entreprise.
Donc c'est un rapport quand même. Si vous voulez apprendre le chinois, Céline Landreau, RTL vous demandera quel est le rapport avec...
Ouvrir une fréquence à Pékin.
Oui, voilà. pas bête.
D'un mot, Mathilde, est-ce qu'on sait combien de Français se sont déjà formés grâce au CPF ?
Plus de 5 millions depuis le lancement du CPF en 2015. Rien qu'en 2022, c'est 1,8 million de formations qui ont été financées.
Merci Mathilde Piquet.
Merci beaucoup. Dans un instant, les infos.
RTL Midi, Céline Landreau et Éric Brunet.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1184 euros.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
La Côte d'Or, au cœur de la Bourgogne. C'est la première destination nature et patrimoine entre Paris, Lyon et Strasbourg. Des sites inscrits à l'UNESCO, des plus beaux villages de France, le Parc National de Forêt, le Parc du Morvan, des itinéraires gourmands, dont la célèbre route des Grands Crus. Tout commence sur lacotedorjador.com.
Ça vous arrive à vous de prendre de grandes décisions en 10 secondes ?
De grandes décisions, monsieur Junior ?
Moi, la dernière fois, j'étais chez moi et j'ai dit, c'est trop petit ici, on part.
Vous avez déménagé ?
Non, on est parti chez mon expert agréé Rénoval et hop, 20 mètres carrés de plus.
En ce moment, chez Rénoval, la TVA est offerte. Conditions sur Rénoval.com. Mon extension, ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Carrefour, pour les French Days, avec 100 euros de remise immédiate et 20% d'économie créditée sur votre carte Carrefour, le téléviseur Samsung LED 4K 145 cm revient à 399,99€ au lieu de 599,99€. Et c'est jusqu'au 13 mai dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Limité à 1800 pièces, référence TU58 CU7105, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment ? Pas sur des nouveautés qui datent de pfiou ! Jusqu'au 27 mai, pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, découvrez notre cuisine en kit de la nouvelle collection à moins de 1500€ seulement. Moins de 1500€ la cuisine, garantie 25 ans et fabriquée par la paire. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi, car il est midi et demi.
Céline Landreau,
Vincent de Rosier.
Bonjour Vincent.
Bonjour Céline, bonjour Eric et bonjour à tous. Et à la une, un 1er mai très politique avec un grand meeting à Perpignan pour le Rassemblement National, Marion Maréchal dans les Vosges et Raphaël Glucksmann accueilli par des invectives et des jets de peinture à Saint-Étienne.
Les autres titres, Vincent.
Mendicité interdite dans l'hypercentre d'Amiens, l'arrêté est en vigueur à partir d'aujourd'hui. Le PSG veut écrire une nouvelle page de son histoire. Demi-finale aller de la Ligue des Champions à Dortmund ce soir. Un grand pas pour le droit des femmes en Pologne avec le retour en pharmacie de la pilule du lendemain. Enfin, Paris réussit pour Artus, son film Un petit truc en plus qui sort aujourd'hui est drôle et touchant.
La culture, ce sera aussi à 12h50 dans LVT midi, cet hommage rendu à Paul Auster, l'écrivain américain, auteur de la trilogie new-yorkaise, s'est éteint hier soir et avait 77 ans. Bernard Lehu, qui a eu la chance de le rencontrer chez lui à Brooklyn, viendra nous en parler. Et puis juste avant ça, 166 millions d'euros et un gagnant en France. Un joueur a vu sa vie changer grâce à la grande loterie européenne hier soir. Mais comment les grands gagnants vivent-ils ce changement ? On y reviendra en détail juste après le journal. Et ce sera aussi un des sujets que vous développerez dans Les Auditeurs ont la parole.
Ah oui, on va se faire plaisir un peu parce que dans les embouteillages, ça nous arrive à tous de se dire mais qu'est-ce que je ferais si je gagnais une telle somme ? Eh bien, ben voilà, appelez-nous au 3210, on va rêver ensemble que Que ferions-nous si nous gagnions 166 millions d'euros, mesdames, messieurs? Et puis on parlera d'un sujet grave qui va vous faire réagir. Une propriétaire cannoise a entamé une grève de la faim pour dénoncer le comportement de ses locataires qui ne paient plus leur loyer depuis des mois. Elle est en grève de la faim, cette dame. Elle a témoigné dans le journal de 8 heures. Les locataires sont-ils trop protégés en France? On ouvrira. Les auditeurs ont la parole à 13h avec ce sujet.
La météo, Peggy Broche, un aperçu de l'après-midi?
Avec un temps bien pluvieux sur toute la moitié sud et le nord-ouest et des orages.
Point complet à la fin du journal.
Jusqu'à 13h.
RTL Midi.
Ce n'est certainement pas le premier mec qu'il avait imaginé. Raphaël Glucksmann, tête de liste du PS et place publique aux européennes, n'a pas pu rejoindre le cortège. À Saint-Étienne, Marie-Bénédicte Allaire, quelques dizaines de militants l'ont pris à partie et lui ont jeté de la peinture. Alors, vous avez pu joindre le candidat socialiste. Qu'est-ce qui s'est passé précisément?
Alors, à leur arrivée dans le cortège, Raphaël Glucksmann et son entourage ont été pris à partie, effectivement, au cri de « casse-toi, social traître » par des manifestants qui ont aussi jeté divers projectiles. Tous se sont mis à l'abri, sans dégâts autres que des vêtements souillés de peinture. Sur une vidéo, on voit quelques drapeaux palestiniens. Il y avait aussi visiblement des militants France Insoumise et communistes sur place. Nous venons donc de joindre Raphaël Glucksmann. Écoutez sa réaction.
Cette attaque, elle vient dans un contexte qui est le contexte d'une extrême radicalisation et brutalisation du débat public à laquelle il faut mettre fin maintenant. Ces gens qui ont un rapport violent à la démocratie, eh bien, sont dangereux pour notre démocratie. Je ne baisserai les yeux ni devant eux, ni devant personne.
Sur X, Jean-Luc Mélenchon vient de faire part de sa totale désapprobation de cette action. De nombreuses personnalités apportent leur soutien à Raphaël Glucksmann, comme par exemple Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France.
Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire. 270 manifestations aujourd'hui dans toute la France pour cette fête du travail. 150 000 personnes devraient défiler. C'est forcément moins que les 800 000 de l'an dernier contre la réforme des retraites. Des policiers et gendarmes sont mobilisés, 12 000 au total, dont 5 000 rien qu'à Paris, où le cortège partira à 14 heures.
Un arrêté anti-mendicité entre en vigueur dès aujourd'hui dans le centre-ville d'Amiens.
La maire n'en peut plus des plaintes récurrentes des commerçants. Elle dénonce les interventions multiples des forces de l'ordre pour cause de mendicité agressive, d'alcoolisation ou de gêne à la libre circulation des piétons. Margot Munoz, vous êtes dans l'hypercentre d'Amiens pour RTL. Les commerçants, ils sont rassurés?
Alors, sur la place commerçante du centre-ville, ils sont plusieurs cafés à avoir cadenassé leur table. Julie a sauté le pas il y a quelques mois après de nombreuses altercations avec des sans domicile fixe.
Alors, on a eu des tables, chaises, de terrasses cassées. À plusieurs reprises, des clients ont pris peur par rapport à eux parce que du coup, il y a beaucoup de violence qui se passe. Ils prennent les chaises de terrasse pour se battre et bah, c'est pas très cool.
Alors forcément, en tant que commerçante, cet arrêté la rassure. Camille habite le centre-ville, son avis est moins tranché.
À la fois, en tant que jeune parent, on n'est pas toujours rassuré. Parfois, on a quelques personnes qui peuvent être un petit peu agressives. Mais en même temps, il faut faire quelque chose pour ces gens-là.
Les aider plutôt que les sanctionner, avis partagé par les associations. Elles sont vent debout depuis l'annonce. Les maraudes citoyennes amiennoises, par exemple, dénoncent une mesure inhumaine mise en place, selon elles, pour les Jeux Olympiques.
Margot Munoz, en direct de l'hypercentre d'Amiens, dans la Somme, pour RTL.
Un garçon de 13 ans et sa mère de 34 ans sont morts ce matin dans l'incendie d'une longère rue, une grande ferme à la Trinité dans la Manche. Le père a été hospitalisé en urgence absolue. Une cinquantaine de pompiers se sont rendus sur les lieux du drame.
Le Rassemblement national a choisi le 1er mai pour organiser son premier grand meeting à Perpignan.
Dans la ville de Louis Alliot, un 1er mai, date fétiche des lepénistes, alors que la liste emmenée par Jordan Bardella bénéficie de très bons sondages. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Perpignan, à quelques jours du premier débat exceptionnel sur RTL avec l'ensemble des candidats. Le moral au RN est plutôt bon, mais les détracteurs accusent Jordan Bardella de ne pas faire campagne. Il va leur répondre aujourd'hui en dévoilant des noms sur sa liste.
Absolument, 34 noms précisément dans cette liste. En position 2, Malika Sorel, qui a défrayé la chronique lorsqu'on a appris qu'elle avait fait des offres de service à Emmanuel Macron avant d'en faire à Jordan Bardella. En position 3, l'ancien patron de Frontex, Fabrice Légéry, parmi d'autres nouvelles têtes, figurera sur la liste. Thierry Mariani, au RN, on assume un désaccord sur le fond concernant la Russie de Vladimir Poutine, mais qu'importe. dans le parti, on dit récompenser la fidélité de Mariani. Ne figurera pas, Vincent, sur cette liste, Saïd Ali Bouina Amissi, délégué départemental du RN à Mayotte. Il était prévu, mais son nom a été retiré. Il avait eu des propos racistes, complotistes et de soutien à la polygamie.
Julien, Marion Maréchal est au même moment à Domrémy-la-Pucelle dans les Vosges pour un hommage à Jeanne d'Arc. Et au RN, l'un des objectifs désormais assumés, c'est d'aller chercher les électeurs d'Éric Zemmour.
Oui, en martelant qu'il y a un vote utile, façon d'asphyxier le parti de Marion Maréchal et Éric Zemmour. Dans les différents sondages, plus d'un tiers des électeurs de Zemmour à la présidentielle en 2022 ne voteraient pas pour la candidate de Zemmour cette année, mais irait au RN. Dans l'équipe de Jordan Bardella, on pense que le vote Reconquête ne sert à rien, car Reconquête ne fera pas les 5% nécessaires pour envoyer des députés à Bruxelles et à Strasbourg.
Merci beaucoup Julien Fautra du service politique de RTL. Les autorités rappellent des lots de farine bio principalement écoulés dans l'ouest de la France après des cas d'intoxication. La procédure concerne tous les lots de farine de blé noir bio de la marque Jean-Pierre Clotot.
Et si c'était enfin la bonne année pour le PSG?
Alors oui, on a déjà entendu ça Céline, mais cette année un peu plus que d'habitude. Les Parisiens sont à Dortmund ce soir pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. RTL Foot, spécial Ligue des Champions de 20h à 23h autour d'Eric Silvestro. Avec aux commentaires Nicolas Georgerot et Philippe Sanfourche. Philippe qui est déjà en direct de Dortmund pour RTL, bonjour.
Bonjour.
Alors Philippe, pas de blessés, pas de polémique. Qu'est-ce qui se passe au PSG cette année?
C'est plus que rare, c'est même inédit.
C'est plus le PSG, hein.
Oui, on n'est logiquement pas habitué, mais c'est un fait. Non seulement il n'y a pas de blessés, mais les joueurs majeurs sont tous en forme au meilleur des moments. Et puis c'est vrai aussi que l'environnement, le climat autour du club n'a jamais été aussi apaisé. Les débats qui animent la fin de saison tournent autour du jeu, le foot tout simplement, pas une énième fête de Neymar, une affaire de char à voile ou un conflit larvé entre la direction sportive et l'entraîneur. Même le feuilleton Mbappé est en sommeil, son départ sans être officiel est acté, digéré, donc oui, le PSG est devenu un club normal en tout cas pour l'instant.
Philippe, les observateurs commencent à dire que c'est la bonne année, que Paris est favori cette fois. Comment Luis Enrique gère cette pression ?
Déjà, il faut mettre en grande partie à son crédit le constat qu'on vient d'établir. Si on parle de situation apaisée et donc peut-être de bonne année, c'est parce qu'il a su mettre en place son projet. La direction l'appuie, les joueurs le suivent. Ils n'ont de toute façon pas le choix, vu le caractère du bonhomme. Et puis les supporters font bloc derrière ces valeurs d'institution au-dessus des intérêts individuels. Donc le plus dur est fait, j'ai envie de dire. Après, la pression, il connaît, il a dirigé le Grand Barça, il a même gagné la Ligue des Champions avec. C'est presque une routine pour Luis Enrique.
Il y a pas un risque quand même de sous-estimer le Borussia Dortmund en se projetant déjà sur une finale contre Madrid ou le Bayern?
Alors si, mais je pense pas. Je suis même certain que les joueurs et le staff ne tomberont pas dans ce piège. Dortmund, on s'en souvient, avait fini premier du groupe de qualification dans lequel Paris était déjà à l'automne. Les Allemands se sont en plus renforcés cet hiver. Il y aura une énorme pression du public, plus de 80 000 personnes ce soir. Les joueurs parisiens connaissent cet environnement. Ils savent qu'il va falloir mettre beaucoup d'intensité, comme à Barcelone sur deux matchs en quart de finale.
Merci beaucoup Philippe Sanfourche, on vous dit à ce soir pour le match et pour patienter, on vous invite de toute urgence à aller écouter le podcast On refait le match présenté par Florian Gazan avec vous Philippe et Nicolas, tout sur cette demi-finale aller en Allemagne. On refait en match, c'est déjà en ligne. L'actualité internationale et la colère qui se propage sur les campus américains, des images de la télé américaine montrent des affrontements aujourd'hui lors de rassemblements pro-palestiniens sur le campus de l'université UCLA à Los Angeles, des coups de bâton et des échanges de feux d'artifice entre manifestants et contre-manifestants.
C'est un pas en avant pour les droits des femmes en Pologne. La pilule du lendemain est de retour en pharmacie.
À partir d'aujourd'hui, les pharmaciens peuvent aller délivrer sans ordonnance médicale pour les patientes âgées de plus de 15 ans. Depuis 2017, ça n'était possible qu'avec une prescription d'un médecin, une libéralisation promise de longue date par le Premier ministre Donald Tusk, Adrien Sarlat.
À 19 ans, Amélia fait partie de ces jeunes polonaises qui attendaient la nouvelle avec impatience.
Moi, je l'ai déjà utilisée et je pense qu'elle devrait être accessible à toutes les femmes, sans distinction.
Pourtant, ça n'est pas encore tout à fait le cas. Les députés ont voté une loi dans ce sens, mais le président conservateur, Andrzej Duda, y a opposé son veto début avril. Pour le contourner, un règlement remplaçant l'ordonnance médicale par une ordonnance pharmaceutique a été introduit. Un premier pas en avant, selon Danuta, qui gère une pharmacie indépendante.
Je pense que c'est une bonne solution, car il vaut mieux qu'une fille prenne la pilule du lendemain plutôt qu'elle ait à avorter, n'est-ce pas ?
Désormais, tout repose sur le jugement des pharmaciens, Mais derrière son comptoir, Beata panique à l'idée de prescrire ce moyen de contraception.
Je ne suis pas préparée à ça, car je n'ai pas fait les mêmes études que les médecins qui savent dans quel cas on peut ou non utiliser ce médicament.
Le gouvernement, lui, n'attend que le départ du président l'an prochain pour enfin promulguer le libre accès pur et simple à la pilule contraceptive.
Un reportage d'Adrien Sarla, correspondant de RTL en Pologne.
RTL Midi.
Vincent, vous reprendrez bien un petit brin de muguet ?
Mais oui, il paraît que ça porte bonheur, on va en mettre tout autour de la télé pour le match ce soir. Notre monsieur Muguet aujourd'hui sur RTL, il est en Bretagne, c'est Nicolas Bobby. Il a rencontré tout à l'heure les guides et scouts de France de la commune de Grandchamp. Et ils vendent pour la bonne cause à Vannes, c'est pour financer un camp scout.
On est habillé en scout et du coup on essaye le plus possible de vous faire voir et puis de vendre le plus possible.
La concurrence est féroce, hein.
Oui.
Il y a beaucoup de personnes qui vendent du muguet aujourd'hui.
Il vient de un peu des jardins de partout. On a demandé un peu à la famille, les amis, et puis on est allé dans les jardins.
On le vend 1,50€ le brin.
Les fleuristes, elles le vendent entre 2€, 2,50€, ça dépend. Nous, ça va, c'est pas si cher que ça par rapport aux autres, quoi. Après, nous, c'est tout ce qu'on veut, c'est nous aider au maximum pour financer notre camp de cet été.
Voilà, 1,50€.
Ils ont déjà le sens du commerce, hein.
Ouais. Bah oui, mais enfin, tous les scouts sont sortis aujourd'hui. Et puis moi, je suis un ancien scout de France, donc je les salue.
Il y en a beaucoup dans la rue, 1,50€. On va essayer de financer leur camp. Merci. Voilà, Bobby.
Le 1er mai, Vincent, c'est aussi l'occasion d'aller au ciné, peut-être pour voir aujourd'hui le premier film en tant que réalisateur de l'humoriste Artus.
Un petit truc Artus. En plus, film qui a beaucoup plu à Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane.
Bonjour tout le monde.
Alors le pari est réussi, Artus réussit à faire un vrai bon film qui fait rire avec des acteurs handicapés légers.
Oui, c'était un pari casse-gueule en effet, comment nous faire marrer sans jamais se moquer ou tourner le handicap en ridicule. Artus en effet y parvient haut la main grâce à un casting d'une dizaine de comédiens, souvent amateurs plus vrais que nature. Ce sont eux en fait qui portent le film. Les acteurs confirmés comme Clovis Cornillac, Alice Belaïdi ou Artus lui-même suivent le rythme. Un petit truc en plus, sous l'histoire de deux braqueurs ratés qui vont se planquer au cœur d'une colonie de vacances pour handicapés mentaux. Projet qui n'a pas été simple à monter, comme le raconte l'acteur-réalisateur.
Je vais être tout à fait honnête, il y a des producteurs, il y a des gens qui m'ont dit clairement non, les gens n'ont pas envie de voir des handicapés à l'écran. C'est ce que je trouve franc et honnête, c'est qu'il y a des gens même qui m'ont dit à la sortie du film, merci parce que honnêtement, je voulais pas aller voir un film avec des handicapés parce que je sais pas comment aller vers eux, ça me met mal à l'aise, ça me met truc. Et là, en fait, ça y est, j'ai compris qu'il n'y a pas de façon de parler à une personne en situation de handicap, c'est une personne comme une autre.
Voilà donc une comédie solaire, positive, touchante, souvent irrésistible, qui fera forcément bouger les mentalités et notre regard sur celles et ceux que nous considérons comme étant différents. C'est un film RTL et on en est assez fiers.
Et c'est en salle aujourd'hui. Merci Stéphane Boutsock.
Et merci Vincent Derosier. La météo, Peggy, c'est un temps à aller au ciné ?
Ah oui, carrément. Et c'est vrai parce qu'on a un temps bien pluvieux et sur les trois quarts du pays, entre le sud-est, les plaines du sud-ouest en remontant vers le massif central et la Normandie, localement soutenu avec des orages aussi qui vont se mettre en place puisqu'on a 14 départements en vigilance orange aux orages entre l'ouest de la Bourgogne, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Un phénomène qui va se mettre en place surtout en fin de journée et en soirée avec des orages localement marqués, de la grêle, de fortes rafales de vent, d'importants cumuls de pluie. Et sur la façade atlantique, on va retrouver un temps un peu plus sec, en tout cas plus calme, même s'il reste quelques averses. On a beaucoup de neige également sur les Alpes frontalières en haute montagne, sur l'ouest des Pyrénées. Et puis c'est instable aussi avec des averses orageuses sur la Corse. Et à l'écart de ce mauvais temps, finalement, il y a juste l'extrême nord-est entre l'Alsace-Lorraine, les Ardennes et le Nord-Pas-de-Calais, un temps sec sous un ciel variable. Les températures très contrastées, de 10 à 13 degrés dans le sud-ouest. On est souvent largement sous les normales, parfois 10 degrés sous les normales, 14 à 15 sur l'extrême nord-ouest du pays, 17 à 21 ailleurs et jusqu'à 26 degrés dans le nord-est.
Merci beaucoup Peggy. Je faisais un petit calcul en vous écoutant, Peggy, avec un ticket de ciné autour de 9 euros. Le gagnant de l'Euromillion va pouvoir aller voir 18 444 films. C'est pas mal.
Car c'est une très mauvaise nouvelle pour vous qui nous écoutez, mesdames, messieurs. Ça n'est pas vous qui avez gagné le jackpot de 166
millions. On ne sait pas. Peut-être que celui qui a gagné nous écoute.
Ah oui, peut-être. Peut-être qu'il écoute RTL. Appelez-nous dans ce cas, 3210.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Éric Brunet, Céline Landreau.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, Ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale. Prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire. Tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1184 euros.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99 euros. 36,99 euros au lieu de 39,99 euros, soit 9,25 euros le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Là, vous entendez ? Et vous pensez à Leroy Merlin en grattant mollement la peinture qui s'écaille sur le banc de votre jardin. Mais là, quand je dis que jusqu'au 14 mai, les peintures de la gamme Multimatériaux V33 2 litres sont à 39,90€ au lieu de 49,90€, soit 20% de remise, là vous grattez carrément tout le banc. Le portail, les volets, et c'est parti pour tout repeindre.
Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Soit 19,95€ le litre.
RTL Midi.
Avec Éric Brunet et Céline Landreau.
166, les amis, 166 millions d'euros en France. Un homme ou une femme s'est réveillé ce matin beaucoup, mais alors beaucoup plus riche grâce à l'euro million.
Bonjour Simon Marseille.
Bonjour.
J'imagine que c'est pas quelque chose qu'on claironne partout quand on gagne, mais est-ce qu'on en sait davantage sur le gagnant du jour ?
Ah bah ça, c'est un secret bien gardé. Nous ne pouvons pas vous dire s'il a appelé nos services pour le moment. Voilà ce que m'a confié la Française des Jeux au téléphone tout à l'heure. En tout cas, il va falloir se dépêcher car notre heureux élu a 60 jours pour se signaler. Impossible pour le moment de savoir s'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'un Alsacien, d'un Breton, d'un retraité ou d'un actif, et c'est peut-être mieux pour lui.
Si jamais il ou elle n'est pas encore au courant et qu'il écoute ou qu'elle écoute RTL, vous nous redonnez, s'il vous plaît, Simon Marseille, les bons numéros. Attention, écoutez bien, mesdames, messieurs.
Attendez bien l'oreille. Le 13, le 22, le 24, le 33, le 47 et les deux étoiles, le 5 et le 1.
Bon Simon, on imagine évidemment que ça change un peu la vie, une somme pareille, 166 millions.
Bah, le mieux c'est d'écouter directement les gagnants. RTL en a contacté pour des sommes moins importantes il y a quelques années. 2 petits millions d'euros quand même pour Nathalie en 2020.
Moi c'est vendredi 13 tous les jours parce que vous avez le choix de votre journée. Le matin vous vous levez, toutes les complications, eh ben, on les met dans un coin. Je préfère mettre dans les voyages, je préfère vivre en fait. Je n'ai pas envie ni d'arrêter de travailler, je reste dans ma vie en fait.
Alors pour vous donner une idée, avec 166 millions d'euros, vous pouvez vous offrir l'île de Long Island aux Bahamas, enfin plutôt deux fois l'île de Long Island aux Bahamas, et puis il vous resterait même un petit 26 millions d'argent de poche, c'est quand même pas mal.
Et on le disait, hein, souvent les gagnants préfèrent rester discrets, c'est d'ailleurs pour ça que la femme qui témoignait avait la voix un petit peu modifiée, ce qui explique ce timbre un peu particulier. Bonjour Nicolas Robineau.
Bonjour,
vous êtes à tous. Le cofondateur du site tiragegagnant.com. Les grands gagnants, ils sont évidemment accompagnés pour gérer, digérer une nouvelle pareille.
Alors oui, en réalité, ils ont le choix. Et un gagnant sur deux seulement va choisir justement de se faire accompagner par la Française des Jeux. Mais globalement, on va imaginer que pour avoir justement ce rendez-vous lors du paiement à Boulogne-Billancourt, tout est pris en charge, du train jusqu'au taxi pour arriver jusqu'au siège, etc. Et du coup, on a une rencontre avec l'équipe grand gagnant qui est opérée et l'accompagnement qui est proposé pour une durée de 5 ans.
Alors qu'est-ce que c'est cet accompagnement ? Que se passe-t-il ?
Alors, dans cet accompagnement, il va y avoir différents ateliers qui seront proposés aux gagnants, notamment des ateliers avec des psychologues, parce que lorsqu'on gagne 166 millions d'euros, comme vous l'avez dit, on change une vie du jour au lendemain. Des professionnels de la relation, notamment, est-ce qu'il faut en parler ou non à la famille, aux amis, quelle personne, on va avoir des faux amis qui vont arriver probablement dans notre vie si jamais on le dit à un peu trop de monde. Et on va avoir tout ce qui est éducation financière, donc des personnes qui vont faire de la gestion de
fortune, nous apprendre un petit peu à comment investir ces 166 millions d'euros. Et puis, on va avoir les dîners de gagnants. Donc, ces dîners de gagnants, c'est classiquement pour faire un peu de relations, un peu de réseau avec des personnes qui, justement, ont vu leur vie changer du jour au lendemain. Donc, tout ça, c'est compris dans cet accompagnement sur 5 ans. Et la FDJ a mis ça en place, en réalité, à la fin des années 90, parce que, justement, il y avait énormément de personnes qui, finalement,
pouvaient...
Soit mal géré, ouais, c'est ça, soit mal géré, soit lire un peu à tout le monde, soit pavaner avec des pancartes, j'ai gagné. Et du coup, c'était peut-être pas la meilleure des idées.
Et on a des exemples, justement, de gens qui ont tout cramé, si vous me permettez l'expression, un peu trop vite, qui gèrent mal cette chance-là.
Alors oui, il y a effectivement des exemples, il y en a de moins en moins. En Angleterre, on a un exemple récent avec un vitrier qui a remporté 12 millions d'euros lors d'un tirage loto, et puis avec des mauvaises acquisitions, avec justement des dons aux amis, aux familles, avec aussi des divorces et des événements de vie, et du coup il s'est retrouvé totalement ruiné au bout de quelques années, et il a dû reprendre son activité de vitrier. Par chance pour lui, c'était le chef d'entreprise de sa vitrerie, et il avait gardé un petit pécule pour pouvoir investir un peu dans son entreprise. Mais oui, ça existe, plus près de chez nous. Par exemple, en France, on a l'exemple du boucher de Bègles, une personne qui avait gagné 26 millions d'euros à l'euro-million et qui a eu des déboires. C'était un fan de voitures de sport, il y a eu des problématiques d'addiction. Et donc voilà, on a aussi ces histoires de vie qui existent quand c'est, entre guillemets, le changement est mal géré.
Complètement dingue, il a brûlé, il a cramé ses 26 millions d'euros. Lui. Bon, mesdames, messieurs.
Vous savez, peut-être que ça fond vite, je ne me rends pas compte.
On en parle à partir de 13h30. Que feriez-vous de cet argent? On va rêver un peu si c'était vous qui avez gagné, par exemple, 13h30 dans Les Auditeurs ont la parole au 32-10.
Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Robineau, cofondateur, on le rappelle, du site tiragegagnant.com. Et puis, tiens, si vous avez un peu d'argent devant vous, achetez des livres et pourquoi pas des livres de Paul Auster qui nous a quittés hier soir. L'hommage de Bernard Lehut, c'est juste après ça.
RTL Midi.
Éric Brunet, Céline Landreau. Au livre de poche, L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Une fresque romanesque qui explore la destinée des femmes des années 60 à nos jours à travers la vie de quatre héroïnes, dont celle de Ménie Grégoire. RTL.
Attention, moi je ne dis pas qu'il faut choisir absolument Rénoval.
Bien sûr, monsieur Génial.
Non, je dis juste qu'il y a des personnes dont je fais partie qui préfèrent faire confiance à des gens compétents, à l'écoute, qui feront un travail irréprochable avec des matériaux de qualité. C'est tout ce que je dis.
En ce moment, chez Rénoval, la TVA est offerte. Conditions sur Rénoval.com. Ma pergola, ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr. RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi et hommage aujourd'hui à Paul Auster, l'écrivain américain, décédé cette nuit chez lui à Brooklyn des suites d'un cancer du poumon. Il avait 77 ans. Bonjour Bernard Lehut.
Bonjour Céline, bonjour Eric.
C'est l'un des géants de la littérature, le mot n'est pas usurpé, l'un des géants de la littérature américaine qui vient de s'éteindre. Paul Auster était aussi le plus francophile des auteurs américains et le public français lui rendait bien d'ailleurs l'amour qu'il portait à notre pays.
Ben oui, c'est en France, avant même les États-Unis, que Paul Auster a été considéré comme un auteur majeur après avoir étudié la littérature française. Il fait un premier voyage à Paris, puis séjourne pendant 3 ans dans la capitale et à Angers, aux États-Unis, avant d'être publié. Paul Auster traduit plusieurs écrivains français, entre autres Simenon. Écoutez-le évoquer ce lien privilégié avec la France.
Je suis venu en France pour la première fois quand j'avais 18 ans. C'était en 65. Et chaque fois que je reviens, je ressens un bonheur qui répand dans moi. Je suis très heureux d'être à Paris encore. J'ai des souvenirs de mes expériences ici très vastes et profondes. Et cette rencontre avec une autre culture, je crois, m'a fait beaucoup, beaucoup de bien.
Alors Paul Auster, c'est un géant qui laisse derrière lui, Bernard Lehut, une œuvre majeure de la littérature américaine.
Illustré par son plus grand succès, la trilogie new-yorkaise, Auster, c'est d'abord l'écrivain de New York. On retrouve ici la quintessence de son univers, de son style. Manhattan ressemble à un labyrinthe où errent des personnages à la recherche de leur identité. Ces romans tiennent du polar, du roman noir, énigmatique, doublé souvent d'une quête métaphysique, comme l'illustre également son livre le plus étonnant, un livre monumental, 4-3-2-1, c'est le titre, 1000 pages, 4 versions de la vie d'un même personnage. Écrire, pour Paul Auster, une évidence.
Quand j'étais assez jeune, l'écriture est devenue la chose que je voulais faire. Il n'y avait pas de question. Alors le fait que je suis arrivé à mener ma vie comme ça, c'est tout ce que je voulais. C'était un miracle, vraiment un miracle. Je ne peux pas imaginer me faire autre chose. Si j'avais du talent pour la musique, j'aurais bien aimé être musicien, mais c'était pas une possibilité. Heureusement, notre fille Sophie, ouais, qui chante magnifiquement et qui compose, c'est elle la musicienne dans la famille qui me donne une joie sublime.
Vous avez rencontré Bernard à plusieurs reprises, Paul Auster, notamment chez lui, on le disait, à Brooklyn.
Mais oui, dans une grande maison en grès rouge où il écrivait dans un petit bureau à l'atmosphère monacale, face à un mur nu et avec un rituel bien établi.
J'écris chaque jour, il faut. C'est toujours une longue marathon et bon, je me lève assez tôt, de plus en plus tôt. Le plus vieux que je deviens, le plus tôt je me lève. 6 heures et je descends à la cuisine, je prends du thé, jus d'orange, je lis le journal et puis je m'installe au bureau là. Et la méthode que j'emploie depuis toujours, c'est j'écris tout à la main, dans les carnets avec un stylo, plume. Normalement, quand je termine un paragraphe peut prendre une heure, un jour, une semaine, ça dépend. Je tape ce paragraphe à la machine.
Eh oui, une vieille Olympia achetée à un ami il y a 50 ans, à l'époque pour $40.
Paul Auster évoquait tout à l'heure sa fille Sophie, qui mène une carrière de chanteuse. Bernard, qu'il a eu avec celle qui est devenue sa seconde épouse, écrivaine elle aussi.
Et oui, Siri Hudsvet, une rencontre décisive pour Paul Auster, dans des circonstances presque dignes d'un roman.
Je suis certain que c'est le fait que j'ai rencontré ma femme, Siri, d'une manière presque impossible. Et on est ensemble maintenant depuis 37 ans. On s'est rencontrés.